Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families. Aujourd'hui, on retrouve Gaëlle au micro, une maman belge installée depuis plus de 10 ans à Haïfa en Israël. Elle revient avec nous sur son installation en Israël, mais aussi son quotidien que d'être une maman célibataire à l'étranger. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Bonjour Gaëlle.
Bonjour Cindy.
Merci de prendre un peu de temps pour venir témoigner sur le podcast.
Avec plaisir.
Alors, comme d'accoutumée maintenant, j'aimerais bien que tu te présentes, que tu nous dises un peu qui tu es, où est-ce que tu habites et de qui est composée ta famille, s'il te plaît.
Alors, je me prénomme Gaëlle, je suis à l'origine de Belgique et j'habite maintenant en Israël. Je suis maman célibataire d'un petit garçon qui va avoir 5 ans.
Alors donc, du coup, avant que tu nous parles de ton immigration en Israël, est-ce que tu peux nous faire un petit background belge ?
Bon, moi, je suis née en Belgique. J'ai grandi toujours en Belgique. Et j'ai toujours aimé la Belgique. Je ne suis pas partie parce que j'aime pas ce pays. En fait, je suis née de père belge et de mère israélienne qui avait quitté Israël pour aller épouser mon père et vivre là-bas. Et j'ai toujours eu ça en moi. J'ai toujours aimé venir en Israël depuis que je suis bébé. J'ai toujours été extrêmement triste en revenant en Belgique. Le cafard, comme on a souvent quand on revient de vacances, mais c'était encore plus accentué. Et puis j'ai réalisé que c'était vraiment en moi, que j'aimais être ici, que je me sentais comme un petit poisson dans l'eau, même si, bon évidemment, la météo est meilleure qu'en Belgique, mais le reste, la vie est extrêmement difficile. Financièrement, c'est extrêmement difficile, la vie ici. Mais les gens sont tellement sympathiques et chaleureux. Et toute ma vie, j'ai voulu venir en Israël, mais c'était jamais le bon moment. Ou j'étais trop jeune, ou je travaillais. Enfin, il y a toujours quelque chose. Et à 35 ans, je me suis dit, pas de travail, c'était la crise de 2009. Pas de travail, je ne suis pas propriétaire, je ne suis pas mariée, j'ai personne. C'est maintenant ou jamais. Et en fait, j'ai eu le déclic simplement en venant au mois de juillet ou août pour un mariage dans ma famille ici. Et je me suis dit, bon, je vais me renseigner pour voir comment ça se passe. Donc, j'ai un peu forcé les bureaux parce qu'ils voulaient que je me renseigne en Belgique. J'ai dit, non, je suis ici, je vais venir chez vous à Jérusalem et je me renseignais. Je n'aurais pas trop laissé le choix. Donc, ils m'ont ouvert les portes du bureau, j'étais me renseigner. Ça s'appelle l'agence juive, le bureau qui s'occupe des personnes qui veulent venir vivre en Israël. Et ça s'appelle la loi du retour. En fait, toute personne juive qui habite à l'étranger a le droit de venir vivre ici. Il n'y a pas de conditions, il n'y a pas besoin de visa ou quoi que ce soit.
Ok, donc ta famille étant juive, c'est plus simple pour toi de venir t'immigrer là-bas.
Oui, pour tous les juifs, c'est sans problème. Et ceux qui ne sont pas juifs, il faut un visa de travail ou un visa de ci. Ou s'ils sont l'époux d'une personne israélienne, ils peuvent venir avec un visa d'époux, etc. Mais pour les juifs, c'est beaucoup, beaucoup plus simple. Bon, il y a de la bureaucratie, évidemment, sinon ce ne serait pas drôle. Mais... oui, voilà, donc je disais, oui, donc ça a toujours été en moi. Et puis en 2009, avec la crise économique qu'il y avait en Europe et un peu dans le monde, donc j'étais au mariage, j'ai pris des renseignements. Et pendant la conversation avec cette personne, ça s'est juste fait naturellement. J'ai pas décidé que j'allais le faire, ça s'est juste fait. C'est vraiment descriptible, même moi je trouve pas les mots. Pendant qu'on discutait, je me suis inscrite à l'Ulpan. L'Ulpan, c'est ce que reçoit tout nouvel immigrant. C'est un programme de 5 mois d'études de l'hébreu intensif. Je me suis inscrite à ces cours et j'ai mis le processus en route au niveau administratif.
Mais donc du coup, quand tu arrives en Israël, que tu sois juif ou non, il faut que tu fasses un stage de 5 mois intensif en hébreu, c'est ça ?
Non, c'est pas du tout obligatoire. C'est offert par le pays à tout immigrant qui vient, pour faciliter l'intégration. Venir dans un pays et pas parler la langue, c'est un peu bête. Si j'étais partie vivre en Espagne, j'aurais appris l'espagnol pour être intégrée dans le pays. Et si on a la chance d'avoir 5 mois de cours intensifs payés par le pays.
Ah oui, donc autant le prendre.
Ah oui, ça aide.
Tu ne peux pas travailler, j'imagine, pendant cette période-là, vu que tu es
en place. Ah si, bien sûr, on est tout à fait légaux. Quand on arrive, on est légaux, on a notre passeport, notre carte d'identité. Enfin, moi, je suis encore un cas un peu à part parce que, étant née de mère israélienne, je suis arrivée avec mon passeport israélien. Je devais le faire avec mon passeport israélien. Il y a toute une série de statuts qui existent ici. Tout est compliqué ici au niveau administratif, mais ce n'est pas grave. Et donc, non, je pouvais tout faire, mais c'est difficile de travailler en même temps que les cours parce qu'on étudie le matin et puis on a les devoirs, les leçons, comme quand on était à l'école.
Intensif.
Et puis on doit s'habituer, on doit trouver ses repères dans la ville où on est. Parce qu'il y a des Ulpan, donc ce cours, dans quasiment toutes les villes du pays. Donc moi, je suis arrivée à Haïfa parce que c'est le meilleur du pays et je voulais mettre toutes les chances de mon côté. Et c'est une très belle ville en plus. Et donc voilà, non, c'est pas payant, c'est pas obligatoire et on a tout à fait le droit de travailler.
Mais alors j'ai deux questions. Est-ce que tu peux t'en sortir en Israël si tu parles pas l'hébreu ou c'est quand même très compliqué et ça te réduit largement le champ culturel?
Oui, il y a beaucoup d'immigrants qui ne font pas l'effort ou par leur âge parce qu'ils sont très âgés ou des jeunes parce que beaucoup de Français, ils aiment rester entre eux, donc... j'appelle ça des petits ghettos où ils restent entre eux, tous leurs amis sont francophones, etc. Pareil pour les anglophones ou pour les sud-américains qui parlent espagnol. Moi, j'ai pas voulu ça. J'aurais pu travailler en anglais ou en français pour avoir la vie beaucoup plus facile, mais j'ai choisi le chemin de l'intégration totale et j'ai voulu parler hébreu pour être tout à fait intégrée, pour tout comprendre. Je venais d'un poste de directrice générale d'une société à Bruxelles. Ici, je me retrouvais vendeuse dans un magasin de jouets ou hôtesse dans des expositions, mais tout était en hébreu et c'était encore la meilleure école pour apprendre le langage de tous les jours. Et ça m'a fait bien évoluer dans la bonne direction au niveau de la compréhension, de la parole, et je ne regrette pas du tout ça.
Mais parce que, est-ce qu'en 5 mois vraiment, parce que ça a l'air quand même très compliqué à apprendre l'hébreu from scratch, et surtout quand t'es un adulte, t'arrives à 5 mois à vraiment comprendre et arriver à t'en sortir, je sais pas, et faire des courses?
En 5 mois, moi je connaissais quelques mots comme tous les touristes, comme n'importe quel touriste qui va dans un pays, on connaît quelques mots toujours, même si c'est en Espagne, hola, qué tal, mais je connaissais quelques mots de base, mais j'étais pas du tout, malgré... que j'avais une maman israélienne, elle ne vous a jamais parlé en hébreu. Donc, si on étudie bien, on fait bien ses devoirs et ses leçons, c'est vraiment un temps plein, ses études, et on peut s'en sortir avec un bon niveau déjà de compréhension. Je ne vais pas dire que la perfection, parce qu'on n'y arrive jamais. C'est compliqué, parce que ce n'est déjà pas le même alphabet, donc c'est assez compliqué. Imaginez parler le chinois, le japonais, c'est un peu pareil. Il n'y a aucune racine avec le français, aucune racine latine, donc c'est compliqué, mais on peut tout à fait déjà bien s'en sortir après 5 mois intensifs. On peut aller faire ses courses et ce genre de choses.
Ok, donc tu arrives, tu fais ce stage, après tu te trouves des petits boulots, c'est ça?
Oui, tout à fait.
C'est cher en plus la vie sur place ou
la vie est extrêmement chère.
Ouais.
Les prix, loyer, etc., nourriture... On va dire que c'est la même chose qu'en Belgique, en Europe, voire même un peu plus cher, mais les salaires sont de moitié.
Ah oui.
Pour vous donner une idée du niveau de vie ici. On est loin du luxe, on est très très loin du luxe. Bon, comme dans tous les pays, il y a des gens très très riches qui habitent dans leur villa, etc. Mais la majorité, non, c'est niveau de vie très très moyen. Mais la chance, c'est qu'on vit surtout dehors vu qu'il fait toujours beau. Donc, c'est moins grave de ne pas habiter dans un appartement qui n'a pas le même standing que ce qu'on avait en Europe. Et il faut comprendre que quand on vient vivre ici, on ne doit pas s'attendre au même niveau de vie. On retombe beaucoup plus bas. Moi, comme je l'ai dit avant, j'étais directrice générale d'une société. Je suis retombée au plus bas, vendeuse. C'est ce que je faisais quand j'étais étudiante. Mais ça m'était égal parce que j'étais là où je voulais. Je faisais ce que je voulais. Et puis, c'est moi qui l'ai choisi. On ne m'a pas poussé dans le dos. Personne ne m'a forcé. Mais il ne faut pas s'attendre à un niveau de vie pareil à ce qu'on avait dans notre pays d'origine, ça c'est sûr.
Oui, mais j'imagine que tu as quand même essayé de trouver des boulots qui étaient à valeur égale, entre guillemets, de ce que tu avais à Bruxelles.
Oui, mais pour ça, il aurait fallu que j'ai un très bon hébreu, que je puisse parler, écrire l'hébreu parfaitement. Et ça, je n'avais pas. Si j'avais été dans une boîte américaine ou française, je n'aurais parlé que français et anglais. Et même avec les autres personnes sur place, j'aurais jamais appris l'hébreu. Donc, c'était un dilemme. C'est où trouver un meilleur travail, mieux payé, mais je parlais pas l'hébreu. Ou bien c'était m'intégrer, parler l'hébreu et avoir des petits boulots, pas géniaux, mais qui me font vivre vraiment l'israélienne. Voilà.
À quoi ça ressemble alors la vie sur place? Parce que On entend malheureusement de la mauvaise pub, mais moi par contre, je sais par exemple que Tel Aviv, c'est une destination phare pour la communauté LGBT.
Ah oui, il paraît que c'est la meilleure gay pride ouais. du monde. Il y en a même une à Jérusalem qui est contestée par les religieux, mais il y en a une à Tel Aviv et une à Jérusalem. Je n'essaie pas de faire de la prêche pour le pays ou quoi que ce soit, mais vraiment pour voir les news un peu dans tous les pays et toutes les langues, parce que bon, j'aime ça. C'est tellement faux tout ce qu'on voit à la télé, le massacre, etc. Il y a un parti pris énorme par les journalistes. Moi, j'habite à Haïfa. C'est la ville la plus... avec le plus de mixité. Il y a des Arabes chrétiens, des Arabes musulmans, il y a des Juifs, Ashkenaz, Séfarades, il y a beaucoup de Russes, une grande émigration russe, qui ne sont même pas Juifs non plus. Ils parlent que russe. Il y a beaucoup de Druzes, parce qu'autour de Haïfa, il y a beaucoup de villages Druzes. Et on vit tous ici à Haïfa, mais en totale harmonie. J'ai des amis de toute religion, de toute origine. Je ne suis pas la seule, hein. Et partout les restaurants, je vais souvent manger dans des restaurants arabes parce que c'est délicieux. Il n'y a aucune pression religieuse ou politique. Aucune. Après, probablement que certaines personnes ont leurs idées, mais ils les gardent pour eux dans leur sphère privée à la maison. Mais dans la rue, dans le commerce, dans la vie de tous les jours, on ne le ressent pas du tout. Même à l'université, l'université Technion qui est réputée dans le monde entier, il y a des filles voilées, adorables, il y a des hommes, des femmes, musulmans, chrétiens, juifs, tout le monde étudie ensemble pour faire médecine, donc il y a le même accès aux études pour tout le monde, et non, je vais même dire, il est même facilité aux Arabes, parce que le gouvernement a décidé comme ça, donc tout le monde a accès aux mêmes études, aux mêmes, voilà, il y a une égalité totale entre tous les citoyens.
Okay.
Ils sont même représentés à la Knesset c'est le Parlement. Il y a des Arabes, il y a des Druzes. Un Druze n'est pas un Arabe, attention, je précise. Il y a des Juifs, enfin, il y a de tout. Tout le monde est représenté au gouvernement.
C'est dommage, alors, cette mauvaise pub qu'on entend
mais
tout
oui,
le temps
mais
aux news. Quoi.
C'est à cause de ce qui se passe à Gaza. Et le pire, c'est que même ce que les médias racontent est tout à fait transformé. On dit « Israël ne donne pas ci, Israël ne donne pas ça ». D'abord, je tiens à préciser qu'Israël n'a pas à le donner, puisque Israël a rendu, c'est à eux, mais ils ont donné Gaza aux Palestiniens. Les Palestiniens, les personnes en tout cas qui habitent ces terres, sont censées se débrouiller seules, mais malgré tout. Donc en fait, c'est le Hamas qui a pris la gouvernance de Gaza. Le Hamas est un groupe terroriste. Il est reconnu comme terroriste, tout le monde le sait. Même les Gazaouis se font massacrer par les membres du Hamas. Ils ne sont pas libres, ils n'ont pas eu d'élection là-bas depuis au moins 8 ans. Et tout l'argent, il faut le savoir, tout l'argent international que l'Europe envoie à Gaza est détourné par le Hamas et rien ne va au peuple. Tout va dans les poches du Hamas. Il faut voir la villa que s'est fait construire à Abbas. C'est un palace, ça pourrait être un hôtel de luxe. Et les pauvres Gazaouis, parce que sincèrement, nous, on n'a rien contre les Gazaouis. On sait que beaucoup de Gazaouis n'ont pas de problème avec nous, parce que beaucoup de Palestiniens rentrent en Israël tous les jours pour travailler. On envoie de l'électricité, de la nourriture. Tous les jours, il y a des files de camions, parce que le Hamas ne donne rien au peuple. Ils ne reconstruisent pas les maisons, les hôpitaux. Ils ne reconstruisent pas les écoles. Les écoles et les hôpitaux, d'ailleurs, servent de cache pour les armes au Hamas. Et le peuple pris en otage, mais c'est pas par Israël, c'est par le Hamas. Et c'est ça que le monde ne veut pas comprendre. C'est le Hamas qui les égorge. Il tue les homosexuels, il tue toute personne qui ose dire un mot contre le Hamas. Il est tué en place publique, dans la rue. C'est horrible, c'est vraiment horrible. C'est une dictature, c'est affreux.
Ouais, ça fait penser à la Corée du Nord.
C'est dur. Ils ont une vie horrible, mais je tiens à préciser que c'est pas à cause d'Israël. C'est le Hamas qui leur fait subir ça.
Est-ce que ce n'est pas plutôt la responsabilité des Nations Unies d'essayer d'intervenir dans ce genre de
situation ?
Mais
les Nations Unies, je ne comprendrai jamais, l'ONU, sont tous à soutenir le Hamas. Tout le monde sait que l'argent envoyé va au Hamas et pas au peuple. Tout le monde le sait, ça a été prouvé. Il y a plein de documentaires que je peux vous montrer. Des caches d'armes par l'ONU, d'ailleurs, ils sont au courant que c'est dans les écoles, dans les hôpitaux. C'est pour ça que souvent, quand Israël fait des frappes chirurgicales, Parfois, ça tombe sur des hôpitaux ou des écoles. Je tiens à préciser que l'armée précise, ils téléphonent avant, ils lancent des flyers par des avions pour dire qu'à telle heure, tel endroit va être bombardé. Je ne comprends pas pourquoi la Belgique, l'Europe, tout le monde continue à envoyer de l'argent aux Palestiniens. Et je dis aux Palestiniens parce que c'est ce qu'eux disent, c'est ce qu'eux y croient. L'argent ne va pas aux Palestiniens. L'argent va directement dans les mains du Hamas et de leurs copains en Cisjordanie. Mais ça ne va pas à la population du tout. Ça va pour creuser des tunnels, pour construire des armes. Comment vous croyez qu'ils peuvent construire des armes autant perfectionnées, des bombes aussi perfectionnées qu'on a reçues sur la tête il y a quelques mois?
Oui.
De quel argent ça peut venir? Ce n'est pas l'argent qui est envoyé par les Nations Unies et certains pays arabes, pas tous. Certains pays arabes comme l'Iran.
Ouais.
Tout l'argent va dans le ciment qui rentre dans le pays, envoyé par Israël pour construire les maisons, est détourné pour construire des tunnels. À haute technologie, ils ont même installé le Wi-Fi dans les tunnels, c'est pas une blague. On rigole, mais c'est pas une blague.
Mais je sais, enfin, c'est tellement politisé ce truc que je sais même pas, je saurais même pas quoi te répondre à ça en fait.
Personne comprend.
Oui,
personne ne comprend, ni de notre côté en Israël, ni les Palestiniens. L'argent, il est là-bas, mais pas dans les bonnes mains. Et tout le monde le sait, et on continue quand même à leur envoyer de l'argent. Ouais. Je ne sais pas à quoi répondre, parce que je ne comprends pas moi-même.
Non, mais en tout cas, c'est intéressant d'avoir un point de vue sur place, parce que nous, on voit vraiment ce que les médias véhiculent, et après, c'est à toi de te faire ton opinion, et l'opinion peut être... altéré en fonction de ce que tu vois. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on est quand même en 2021 et qu'on voit toujours des pays comme ça ou des parties du monde qui vivent comme au Moyen-Âge, quoi. Est-ce que, donc, du coup, vous vivez avec tout... avec... comment ça s'appelle ? Avec toutes les traditions juives... Est-ce que, non, pardon, est-ce que donc du coup le samedi les choses sont au ralenti parce que c'est Shabbat par exemple ?
Tout est fermé. Samedi, tout est fermé. Mais bon, tout ce qui est village arabe, etc., eux ils sont ouverts, ils travaillent. Moi j'habite à Haïfa, il y a beaucoup d'arabes donc il y a toujours des bons restos où on peut aller. Okay. Il n'y a pas de bus. Ça c'est embêtant parce que quand on n'a pas de voiture comme moi, c'est un peu plus embêtant. Ils roulent que le matin ou un peu plus tard l'après-midi. Mais non, c'est un pays libre de culte total. Il y a même l'église de Scientologie qui est implantée, parce que selon les lois du pays, on ne peut pas interdire à une personne de pratiquer sa religion, parce qu'on considère ça comme une religion. Donc vous allez à Tel Aviv, vous allez trouver une église de Scientologie. Parfois vous voyez des gens danser au bord de la plage, en priant Krishna et en jetant des fleurs partout. on voit des femmes musulmanes aller se baigner, des femmes juives couvertes aller se baigner. Liberté de culte totale. Je vois parfois des sœurs ou des prêtres en toile de jute aussi dans le bus. Non, c'est un pays totalement libre pour ça. Chacun fait ce qu'il veut.
Ok. Mm-hmm. Mais c'est juste que les rudimentaires, le métro ou le bus... ce genre de choses ne va pas fonctionner parce que c'est à base d'électricité, c'est ça ?
Oui, ça c'est embêtant. Et la plupart, en fait, même des juifs, enfin, par des religieux, eux, ils ne veulent pas. Mais on aimerait bien avoir des bus, ce serait plus pratique. Il n'y a pas de train, il n'y a pas de bus. Donc, ce qu'on n'est pas véhiculé, c'est embêtant. Donc, oui, il y a ça. Il y a le fait que tout est fermé le samedi. Il faut des dérogations pour pouvoir ouvrir le samedi. Comme il y a des magasins 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils ont dû avoir des dérogations. Il y en a plein à Tel Aviv, notamment, pour être ouvert. Mais sinon, les cinémas, les choses comme ça, sont ouverts.
Ok. Et je pensais, par exemple, si vous avez des immeubles un peu longs, par exemple, est-ce qu'ils coupent les ascenseurs ?
Non. Les ascenseurs ne sont pas coupés, mais il existe ce qui s'appelle l'ascenseur de Shabbat.
Ah oui, donc tu ne peux pas presser le bouton et il est automatisé ou un truc comme ça, non ?
Voilà, exactement. Tu peux ouvrir la porte avec tes mains, tu rentres dedans, mais tu n'as pas le droit d'appuyer sur le bouton. Donc, imaginons que tu habites au 8e étage, l'ascenseur, il va s'arrêter à chaque étage en montant et à chaque étage en descendant, comme ça pendant 24 heures.
C'est pas bête, c'est bien pensé. Et on avait une petite aparté sur la vie sur place. Alors, j'imagine que donc tu arrives, tu fais ton stage, tu t'imprègnes de la culture locale. J'imagine que donc tu rencontres quelqu'un, tu tombes enceinte de cette personne. Est-ce que à l'annonce de cette grossesse, ça a remis en cause ta vie sur place, ou est-ce que tu t'es dit mince, je me vois pas élever cet enfant seul ici, est-ce que je vais retourner en Belgique?
Ah non, pas une seconde. Pas une seule seconde, j'ai pensé à retourner vivre en Europe, en Belgique, surtout en ce moment, tout ce qui se passe. Encore plus qu'on est juif, mais pour tout le monde, c'est un peu insupportable, tout ce qui se passe en Europe. Non, pas un instant, surtout qu'Israël, c'est le pays de l'enfant roi. Tout est pensé pour eux, tout, tout, tout. Ici, la vie prévaut. Et les enfants, c'est la vie, et on ne va pas dire qu'on les vénère, on n'est pas non plus des fanatiques, mais on adore les enfants, on adore la vie, et ici, la vie pour les enfants, c'est génial. Parce qu'ils peuvent prendre leur vélo, ils peuvent aller à gauche, à droite. Bon, depuis, on va dire, 10-15 ans, c'est plus comme avant. Avant, tu pouvais laisser ton enfant partir même à vélo seul, il n'y avait aucun souci. Maintenant, ça devient un peu comme en Europe, mais... Non, pas un instant. Bon, j'ai paniqué parce que j'allais élever un enfant toute seule parce que le père ne voulait absolument pas entendre parler.
Oui.
Mais j'avais pensé peut-être venir accoucher en Belgique parce que ce serait plus pratique, mais finalement non, parce que j'aurais dû être là 4 mois, parce qu'à partir de 7 mois, on ne peut plus voler, prendre un avion normalement. Puis après, il faut le temps que le bébé... Voilà, je ne vais pas le prendre en avion en 3 jours. Donc, tout s'est fait ici, ça s'est très bien fait, j'étais bien entourée, j'ai trouvé les bonnes personnes pour m'aider, et il y a beaucoup, 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 beaucoup d'aide.
Oui, alors attends, alors avant qu'on arrive à cette partie-là, alors du coup, comme tu es notre première en Israël, comment ça se passe un suivi de grossesse et un accouchement là-bas?
Ben, comme partout. Bon, moi, j'avais une grossesse, on va dire, à risque, parce que j'étais déjà plus âgée, j'avais 40 ans. Donc, j'étais jugée comme à risque. Donc, j'avais droit à faire des ultrasons beaucoup plus sophistiqués que l'ultrason normal qu'on fait quand on fait des grossesses tous les 3 mois. Mais ça se passe exactement comme en Europe, des rendez-vous chez le gynéco, aller voir, faire des ultrasons, voir si bébé va bien, on mesure le cou, la tête. Moi, je le voyais en 3 dimensions, c'est encore plus rigolo. On m'a vivement conseillé de faire une amniosynthèse. Moi, évidemment, j'avais pas envie parce que je suis une grosse trouillarde, tout simplement. Finalement, je me suis dit, je vais quand même le faire parce que j'ai rien contre un enfant qui serait légèrement handicapé ou quoi. Mais comme m'avait dit mon médecin, à ton âge, te retrouver seul avec un enfant lourdement handicapé, c'est pas une vie. Donc, je me suis dit, bon, ça c'est encore un autre débat, hein, mais bon, j'ai dit, bon, allez, je vais le faire. J'ai pris mon courage à deux mains, j'étais le faire. Je suis très heureuse parce que tout s'est bien passé. Parce qu'il y a aussi un risque de perdre le bébé quand on fait ça. Donc, tout s'est bien passé. C'était surtout ça la crainte, en fait. Donc, voilà, ça se passe exactement comme en Europe. La médecine en Israël, c'est le top du top.
Oui, c'est ça. C'est surtout ça.
C'est réputé dans le monde entier. La médecine en Israël est très, très, très avancée. Donc, au niveau du suivi, on est extrêmement bien suivi. Prise de sang, etc. On prend des vitamines, comme partout. Partout, tout simplement.
Pas nécessairement partout, mais alors donc du coup, parce que oui, ils sont quand même, c'est super high-tech quoi. Enfin, moi en tout cas, l'image que j'ai d'un centre hospitalier en Israël, il a intérêt à être au top du top quoi.
Les centres hospitaliers sont assez bien faits. Bon, c'est le désordre à l'israélienne, hein. Il n'y a rien à niveau, toujours tout ce qui est paperasserie, c'est horrible. Mais oui, on n'a pas à se plaindre. Il y a tout ce qu'il faut, des IRM high-tech, les meilleurs, les machines, il y a tout ce qu'il faut.
Et comment ça s'est passé alors ton accouchement? Pareil, la prise en charge est exceptionnelle ou
La prise en charge, comme partout, hein, on peut tomber sur une bonne équipe ou une équipe nullissime.
Comme partout. Sur une bonne équipe.
En fait, mon accouchement n'a pas été le meilleur accouchement du monde. Après 27 heures, j'ai perdu les os. Et après 27 heures de non-travail, etc., j'en pouvais plus. J'étais épuisée. J'ai hurlé pour qu'on me fasse une césarienne, alors qu'on me l'avait proposé 10 heures avant et j'ai refusé. Toujours parce que je suis trouillarde.
Ben, et donc, ça fait peur en même temps une césarienne, hein.
Ah ouais, mais moi je suis une grosse trouillade, le fait qu'on ouvre le ventre, enfin, et que j'entende tout et tout, je pouvais même pas l'imaginer. Mais là, j'en pouvais plus. Je sentais le bébé. Je pensais qu'il allait sortir, mais par derrière. Et j'en pouvais plus. Je n'ai pas ouvert la bouche pendant 27 heures. On ne m'a pas entendu me plaindre. Et tout à coup, je me suis transformée comme un monstre. J'ai crié « Ouvrez-moi le ventre maintenant !»
Non, moi, mais c'est vrai qu'on...
Et quand je prends certains médicaments, mon petit, on l'a pris directement. Je n'ai même pas eu ce contact peau à peau. Ça, je suis hyper furieuse contre... les médecins et tout qui étaient dans la salle à ce moment-là. Je n'ai pas pu voir mon bébé, le sentir, l'embrasser. On me l'a pris directement pour les traitements. Il a été suivi 5 jours pour être sûr qu'il va bien parce que je dois prendre un médicament qui... Il y a un petit risque pour un bébé. Mais bon, donc, il a été vu, tout va bien. Dieu merci, il va bien, il est en bonne santé. Et après, j'étais... Bon, je n'ai pas eu de bol, c'est tout. J'ai eu une infection de ma cicatrice. J'ai dû retourner en urgence le lendemain de ma sortie. J'étais une semaine avec des antibiotiques jour et nuit. Comme je suis juive, j'ai fait circoncire mon fils à 8 jours. Donc, je suis juste sortie 4 heures de l'hôpital le temps de faire ça, d'aller à la synagogue, etc. J'avais tout organisé de mon lit d'hôpital, la nourriture, traiteur.
Attends, du coup, ça me fait penser à un truc. Tu vois, c'est quand même rigolo que vous attendiez 8 jours ici, comme le veut la religion, parce qu'aux États-Unis, donc, c'est monnaie courante de faire circoncire...
son enfant. Pour des raisons d'hygiène.
Ouais, ils le font sous 48 heures. Tu vois, ils n'attendent pas une semaine.
Mais ça, c'est pas les juifs. Impossible.
Donc oui, parce qu'il faut attendre le... Je ne sais plus, tu donnes le nom.
Tous les noms religieux comme moi, on le fait tous à 8 jours parce que ça se fait à 8 jours.
Ok.
Sauf si l'enfant a une jaunisse ou s'il est malade. Alors là, ça peut se faire plus tard, évidemment. C'est la santé avant tout. La vie, la santé, chez nous, ça passe avant tout. Donc, ça se fait à 8 jours, sauf si l'enfant doit être sous les lumières à cause d'une jaunisse ou qu'il a quelque chose, une maladie. Alors, ça se fait plus tard, sans aucun problème. Sinon, c'est à 8 jours. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, les musulmans le font, eux, à 9 ans ou 8 ans. Pardon si je me trompe, si des personnes m'écoutent, parce qu'ils ont leurs propres raisons par rapport à Mahomet, si je me trompe. Beaucoup d'Africains aussi le font. C'est une coutume chez eux. C'est pas religieux, c'est une coutume, ils le font. Et beaucoup de ni juifs, ni musulmans, ni africains le font pour des raisons purement sanitaires, en fait. Ça évite à des hommes beaucoup d'infections, de maladies, quand il n'y a plus le prépuce.
Oui.
Voilà.
Qu'est-ce que je voulais... Et puis aussi, à 8 jours, c'est là où il y a aussi une cérémonie où tu donnes le nom hébreu de ton enfant, c'est ça ?
Voilà, c'est à la circoncision, donc à la Brit Mila, ça s'appelle. On donne officiellement le nom de l'enfant. On le dit au rabbin qui, lors de la circoncision, va le nommer lors d'une prière et il est officiellement nommé. Voilà.
Ouais. Et pour avoir participé à cette cérémonie, il faut avoir le cœur quand même bien accroché.
Mais moi, ça ne m'a jamais fait peur. En fait, je suis assez bizarre quand ça m'arrivait en Belgique.
Tu es un peu heureuse, toi, en plus,
Oui, quand il s'agit de moi, je suis une grosse peureuse. Mais d'un autre côté, je suis aussi une paramédic, donc c'est assez bizarre. À la Croix-Rouge, je suis de la Croix-Rouge à la base. Mais non, quand j'allais voir les circoncisions, bon, je regardais pas le petit zizi du bébé, mais je regardais comment le moelle, ça s'appelle un moelle, le monsieur qui s'occupe de ça. Oui, ça s'étudie, c'est pas n'importe qui peut le faire. Attention, ils sont formés. Et en général, ils sont formés par des moelles qui eux-mêmes sont médecins. Le moelle qui s'occupait de mon fils, il est chirurgien médecin. C'est extrêmement, extrêmement, mais 0,0,1%, enfin je le sors comme ça ce chiffre, qui est une inflammation, une infection ou quoi. Ça peut venir que si les parents s'occupent mal de désinfecter le petit zizi après, pendant quelques jours, parce que ça cicatrise extrêmement vite un petit bébé.
Non, et puis c'est vrai qu'une semaine versus 2 jours de vie, c'est quand même, ça doit être quand même sacrément impressionnant. Donc,
En fait, le bébé, il pleure surtout parce qu'on le tripote, on le chipote. Mais il pleure pas de douleur parce que une circoncision, mais quelle que soit la religion, on coupe juste un morceau de peau. Il y a pas de nerf, il y a rien, il y a rien de cet ordre qui est touché. C'est juste la calotte en fait. Les hommes comprendront la calotte. Mais quand ils sont bébés, c'est minuscule et c'est en pointe. Donc il y a juste un minuscule morceau de peau qui est coupé et c'est tout. Donc ce qui peut éventuellement lui faire mal, c'est quand il fait pipi, mais à cet âge-là, ils font pas pipi acide, ils font pipi du lait, de l'eau. Donc, la seule chose qui peut faire mal, c'est éventuellement quand on change de bandage. Moi, j'ai eu la chance dans mon malheur de ne pas devoir le faire puisque j'étais hospitalisée. Donc, c'est les amis qui s'occupaient de mon fils qui l'ont fait. Et à la britimella, donc à la circoncision, ils pleurent surtout, oui, quand on le coupe parce qu'on tripote et ils n'aiment pas ça, les bébés. Mais en soi, c'est juste un morceau de peau. Donc, certaines personnes l'ont comparé à une excision. Mais ça n'a absolument rien à voir. Je suis choquée d'entendre ça. Je crois que n'importe quelle personne, juive, musulmane ou africaine, qui entend ça, c'est de la folie. Ça n'a rien à voir avec une excision.
Alors, je sais que nous, donc mon mari étant américain et moi étant française, on s'est beaucoup posé la question, parce que mon mari étant américain, lui, il est, et comme on a un petit garçon, on se dit, est-ce qu'on coupe ou pas ? On a pris le parti de ne pas le faire. Parce que, et mon mari a, parce que j'entends beaucoup, oui, bah, vaut mieux avoir le même, que ce soit pour le papa comme pour l'enfant.
Le même ?
Tu vois, qu'il n'y ait pas de différence, que l'enfant n'a pas à dire, bah, pourquoi toi, ton zizi, il a l'air, déjà, je trouve ça un peu bizarre, parce que pourquoi l'enfant, il irait voir le zizi de son père, ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu sur Internet, qu'apparemment, ce serait bien que l'enfant ait le même sexe que son père. Et donc, j'ai demandé à mon mari, il m'a dit, écoute, moi, j'aurais aimé qu'on me laisse le choix, parce que voilà, on n'est pas de religion quelconque, donc vraiment, ça a été pour des raisons, entre guillemets, sanitaires, hygiéniques, qu'on le fait faire, que c'est monnaie courante de le faire aux États-Unis, c'est pas du tout pour une raison religieuse. Et on est parti du principe que si ça avait été une fille, on ne se serait pas posé la question, donc on ne sait pas pourquoi on se pose la question pour un garçon. En tout cas, nous, on s'est simplement dit, bah écoute, si un jour il souhaite, bon, ce sera peut-être plus douloureux, mais s'il souhaite le faire, tu vois, on n'a pas voulu prendre le parti de choisir pour lui, en fait. Donc, c'est simplement pour ça qu'on a préféré ne pas le faire. Mais après, bon. Mais
chacun est libre de ses choix, hein.
Voilà, toutes ces opinions sont.
Après, et les gens qui critiquent ça, c'est eux qui sont un peu.
Ouais, moi je pense qu'il n'y a pas de critique, c'est vraiment un choix parental ou religieux.
Mais personne n'a à juger, chacun fait ce qu'il veut, tant qu'on fait de mal à personne, je ne vois pas où est le problème.
Ah oui, et puis c'est surtout qui va aller checker. Et non, et je sais aussi qu'on s'est posé la question si. S'il est avec des Américains ou des Américaines qui se permettent de porter un jugement sur son extra de peau. On se dit, bah, dans ces cas-là, cette personne ne sera pas faite pour toi.
C'est sûr.
Mais bon, écoute, c'est un...
Un peu d'ouverture d'esprit. Et puis, si lui, par amour, il voudra le faire, il le fera et puis c'est tout.
Exactement.
C'est un peu plus mal et ça met un peu plus de jours à guérir que chez un bébé, mais c'est pas non plus horrible. C'est mais bon, évidemment, pour un homme, penser qu'on va toucher à ça, je peux comprendre que ça soit délicat, mais...
Oh là là, mais ça, c'est un tout autre sujet quand tu as des enfants après que tu parles d'une vasectomie. Alors là, je te jure, on les perd tous. Enfin, bref. Alors,
on s'éloigne.
On s'éloigne du sujet. Donc, tu sors de l'hôpital. Comment ça se passe quand tu retournes à la maison seule avec ton petit Ethan qui vient d'être né
Moi, comme déjà je suis seule, j'ai pas de famille ici, j'ai personne. J'avais peur du... Enfin, je suis très prévoyante et je suis parfois un peu peureuse, mais en général, non. Mais bon, je me dis, oh là là, je vais me faire un baby blues. En plus, on m'a arraché mon enfant parce que j'ai dû être aux urgences pendant une semaine. Et il va vivre sa première semaine sans moi et ça va faire un traumatisme. Enfin, la mère juive, par définition, comme tout le monde connaît. Je le voyais déjà aller chez le psy à l'âge de 5 ans parce qu'il était séparé de moi. Et donc, j'ai directement corps à l'hôpital. J'ai pas eu honte. J'ai demandé de l'aide sur un groupe de parents francophones en Israël, de mères plutôt. Il n'y a que des mères dans ce groupe. Quoi faire ? Certaines m'ont téléphoné, m'ont rassurée. J'ai demandé à parler à une psychologue ou une assistante sociale, je ne sais plus, quand j'étais à l'hôpital. Elle est venue me voir, c'est une assistante sociale. Je voulais trouver un maximum d'aide, un maximum de support, parce que je savais que j'en aurais besoin. Je vois déjà les amis, enfin tout le monde, des familles normales, entre guillemets, avec un père, une mère, des parents autour, c'est dur. Alors moi, je dis moins à 100 personnes, ça va être hard. Donc j'ai contacté cette assistante sociale qui, depuis le début, en fait, était là. J'ai eu droit à une babysitter pendant 40 heures, quelque chose comme ça. Je la prenais quand je voulais. Donc, ce que je faisais souvent, je faisais venir le matin. Moi, j'allais dormir sur un matelas par terre dans une autre pièce et elle s'occupait du bébé. Parce que je nourrissais mes oursins, ils étaient nourris au biberon. Donc, ça facilite pour ça.
Oui.
Et je prenais un babysitter pour ça, pour pouvoir, moi, dormir un peu, parce que sinon, c'était intenable. Après, j'ai pris beaucoup de plaisir à m'occuper de lui aussi. Donc, et j'ai eu un bébé, enfin, il est toujours extrêmement facile. Je n'avais pas un bébé hurleur, râleur, etc. Il mangeait bien, il dormait bien. J'ai eu beaucoup, beaucoup de chance de tomber sur un bébé pareil. Ça a aidé. Et puis, j'ai eu toute une équipe là, d'assistantes sociales qui m'ont aidée. On aide beaucoup les mamans célibataires en Israël au niveau assistante sociale, donc la municipalité, mais aussi il y a beaucoup d'organismes privés qui vivent grâce aux dons des gens, qui aident les mamans célibataires. Je pouvais recevoir un lit, un berceau, des vêtements, toutes sortes de choses, une baignoire. Il y a beaucoup de choses, j'ai dit non, j'ai trouvé moi-même en fait. Sur Internet, j'ai trouvé beaucoup de choses en deuxième main. Oui. J'allais chercher avec mon petit ventre dans le bus, j'allais chercher des vêtements. Ici, on fonctionne beaucoup en deuxième main en Israël à cause justement de la difficulté financière. Et surtout que ça ne sert pas longtemps, donc autant faire profiter les autres. Des gens qui donnent ou qui vendent pas cher. Donc j'ai beaucoup, beaucoup fonctionné là-dessus. J'ai trouvé à gauche, à droite, un lit, la baignoire en parfait état, gratuitement. Donc quand j'ai trouvé cette association pour aider les mamans célibataires, il y a beaucoup de choses, j'ai dit ne me donnez pas une autre maman qui en aura besoin, je l'ai déjà. On m'avait fourni des couches pendant combien de temps ? Pendant un an, je pense. J'ai eu droit à des couches gratuites, des lingettes gratuites. Oui, oui, ça a beaucoup aidé.
Et les personnes qui venaient t'aider à la maison, tu devais les payer ou c'était offert par l'association aussi ?
Non, c'est 40 heures, elles étaient offertes.
Wow, okay.
Après, quand j'ai plus droit, j'ai pris quelques fois, mais pas beaucoup parce que ça faisait cher.
C'est cher.
Des babysitters pour les mêmes raisons. J'avais besoin impérieux de dormir.
Tu m'étonnes.
Mais bon, j'ai entraîné mon fils pour qu'il fasse ses nuits à l'âge de 6 mois. Et à partir de 6 mois, j'avais des nuits plus ou moins correctes. Mais ouais, je sortais pas beaucoup de la maison, on va dire.
Tu m'étonnes. Non, mais en tout cas, c'est quand même bien d'avoir quelqu'un à la maison, au moins pour. Le laisser que ce soit.
Oui, j'allais dormir 2 heures, j'étais heureuse, j'avais mis un petit matelas par terre, il me fallait 30 secondes pour m'endormir.
Tu m'étonnes.
Et puis je me réveillais si j'entendais pleurer ou quoi, ce qui est normal. Hein. Les nouvelles mamans, on entend tout, on est des radars, non ?
Ah oui. Mais je ne sais même pas si c'est un son ou si c'est une connexion, parce que, alors pour te donner un truc, je fais une aparté rapide.
Oui.
J'ai une amie qui. Donc j'ai dû être en call. Pour une amie qui devait partir à l'hôpital pour accoucher. Et donc, j'étais chez eux. Donc, on habite dans la même ville, mais quand même assez loin l'un de l'autre, à 20 minutes en voiture. Mm-hmm. Et je te jure que je me suis réveillée à 6h24 du matin en disant « J'entends un bébé qui pleure. Bah, » J'étais loin de mes enfants. Hein. J'ai une petite fille qui a 4 mois à la maison, là. Je suis en train de l'entendre. Et je te jure que je suis rentrée à la maison vers 10h du matin. Je fais « C'est réveillé à quelle heure, Alice ?» Et mon mari me dit « Oh, bah, c'est réveillé vers 6h30. » Je fais
« Waouh,
bah, c'est dingue, je l'ai entendu. » Tu vois, mais c'est quand même dingue. Tu vois, ça m'a réveillée.
Tu allaitais ?
Ouais.
Ah, voilà.
Non, mais c'est quand même assez… C'est incroyable.
C'est aussi à la connexion, ça.
Ouais, mais c'est fou. C'est… Ouais. Anyway.
Les mères, on a un truc que les pères pourront jamais comprendre.
Mais je crois qu'il y a un reportage sur Netflix… qui explique que ça active vraiment un centre nerveux dans ton cerveau et c'est là où, en fait, tu es beaucoup plus
réceptive
à même à entendre les cris de ton enfant. Oui, très, ça te met en alerte rouge, quoi.
Mm-hmm.
Enfin, ouais. Et donc, oui. J'imagine que comme tu dois rester, en plus, après une césarienne, j'imagine que quand même, tu dois rester un minimum allongé ou te reposer.
Ah oui, en plus j'ai souffert parce que c'est infecté, oui.
Et alors comment tu fais pour travailler ? Parce que j'imagine que quand même...
Je travaille pas. Je n'ai plus travaillé depuis que j'ai accouché en tant qu'employée.
Donc
je suis seule avec mon fils. Donc déjà, avant l'âge de 6 mois, il était hors de question que je le mette en crèche. À 6 mois, j'ai déposé dans une crèche. Mais un bébé à cet âge-là, aux parents sait que ça chope tous les virus, c'est tout le temps malade. Donc, ouais. J'aurais jamais pu travailler pour quelqu'un, j'aurais été virée directement. Prendre des jours de congé tous les mois parce que mon bébé a mal aux oreilles ou un virus, un rhume, et qu'on ne prend pas la crèche de m'en occuper, c'était impossible. Ça, c'est les 3 premières années. Après, il passe, comment ça s'appelle en français, à 3 ans, en maternelle.
La maternelle, ouais.
Là aussi, ils sont souvent malades. Et puis, ce n'est pas des journées, toujours des journées pleines. Ici, c'est jusqu'à normalement 1 heure ou 2 heures qu'on les garde. Si on veut jusqu'à 4-5 heures, c'est un supplément qu'il faut payer.
Comme aux US, ouais.
L'école aussi, ici, est beaucoup plus tôt qu'en Europe. Donc, en tant que maman célibataire, sans famille, sans aide, je n'ai pas le choix que de rester à la maison. Donc, j'ai décidé d'être indépendante. Et j'ai décidé d'ouvrir ma petite société d'organisation d'intérieur. Et là, depuis pas longtemps, je suis coach en nutrition. J'aide les gens à perdre du poids, à prendre du poids. Donc voilà, j'essaie de trouver plein de solutions pour être indépendante, pouvoir gérer mon temps comme il faut. Parce que même maintenant, à 5 ans, quand ils sont malades ou quoi que ce soit, ben, il faut être là.
Ouais.
Il y a tous les jours de congé, il y a les fêtes, etc. Les écoles ferment, mais les gens travaillent quand même. Et moi, je vais faire quoi de mon fils si je travaille?
Non,
j'ai nulle part où le mettre. Donc malheureusement, depuis... j'ai travaillé jusqu'à 2 semaines avant mon accouchement. J'ai essayé de tenir aussi longtemps que je peux. Et après, je n'ai plus jamais repris un travail en tant qu'employée.
Ok. Donc, tu t'es mis directement à ton compte. Et est-ce que tu as...
Pas directement. J'étais au chômage. Ensuite, j'avais droit à certaines allocations.
Ça allait être ma question. Est-ce que tu as des aides financières, du coup? Ok, donc tu avais cette association qui pouvait t'aider. Mais est-ce que tu as des aides financières par le gouvernement?
Ouh là là, ça 150 shekels par mois, ça fait plus ou moins 30 euros.
10 euros. Ouais, voilà.
Non, même c'est pas, même pas loin. C'est symbolique, hein. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, quoi? Ce n'est pas assez pour acheter 2 boîtes de lait. Alors que sur un mois, à l'époque, il m'en fallait bien 8, 10, 12, quand elle était petite. Donc, quand ils boivent le lait en boîte, ça va vite. En plus, lui, il a des goûts de luxe, il voulait que la plus chère de tous.
Bah, dis donc, le petit est...
Et commençait l'hôpital, la maternité, lui donner celle-là, sans réfléchir. Je ne connaissais pas les prix, je n'avais pas pensé à vérifier ça. Et puis après, quand j'essayais de passer un autre lait, il ne voulait pas. Donc voilà, là aussi, je demandais de l'aide sur Internet. Je demandais à des gens s'ils avaient des boîtes qu'ils n'utilisaient pas, encore fermées, je serais contente. Et j'avais laissé tomber ici. Mais ici, on n'a pas honte de demander de l'aide dans ce pays. Parce qu'il y a beaucoup de personnes dans le besoin et on n'a pas le choix, on demande de l'aide. Alors, il y a des groupes de parents, etc., et on dit, voilà, je suis maman célibataire. Si par hasard, vous avez chez vous des jouets, des vêtements de telle taille, etc., ou des couches de telle taille, moi, ça m'était égal, la marque. Tout ce que je recevais, j'étais contente parce que les parents, on connaît le prix. Hein, ça coûte cher, c'est tout ça. Et comme la vie est chère, il faut essayer d'être un peu plus intelligent que le système et trouver des petits trucs. Voilà. Quand il y a des bons de réduction ou quoi que ce soit, ben, je les utilise aussi à l'époque pour les couches. Certaines couches étaient en promotion, ben là, j'allais acheter des couches de telle marque ou telle marque. Voilà, lui, ça lui était égal, ça. Là, c'est pas difficile.
Oh, tu m'étonnes. Et puis en plus, mais alors, donc si t'es quand même t'es resté en chômage pendant combien de temps?
Ouf, longtemps, parce que même si j'avais ouvert ma société, j'étais incapable d'aller travailler.
Oui, c'est ça, et puis t'as pas le cerveau à ça, quoi.
On n'a pas le cerveau à ça, je suis crevée. Ouais, même encore maintenant, c'est compliqué. C'est compliqué d'aller travailler. C'est pour ça que maintenant, j'ai trouvé... je travaille comme indépendante, là, pour une société, mais indépendante, et je travaille de chez moi, de mon téléphone. Je peux être n'importe où, tant que j'ai mon téléphone, c'est du boulot. Hier, désolée, je vais en déprimer certains, j'étais à la plage pendant 2 heures avec mon fils, parce que c'est près de chez moi, et comme c'est les vacances, il faut les occuper, ben, j'avais mon téléphone... Voilà, je pouvais poster, je pouvais éventuellement répondre, je pouvais travailler.
Mais c'est ça que les employeurs, ils n'ont pas encore compris, c'est qu'on a besoin de flexibilité. Et surtout, surtout quand on est une maman, quoi.
On est parent, même un père, hein, je vais dire. Pourquoi c'est toujours la maman qui doit prendre congé, le père aussi,
là,
il peut s'occuper de ses enfants, il s'en occupe tout aussi bien.
Tu rentres dans un sujet.
Oui. Non, je veux dire, on parle des mamans, mais il y a aussi des papas. Il y a des couples homosexuels qui ont des enfants. Ils ont aussi besoin de ces congés. Il y a des couples où la mère, on va dire, elle est indépendante. Elle est obligée de finir avec un client ce qu'elle est en train de faire et elle ne peut pas lâcher. Donc, c'est le père qui doit prendre congé.
Oui.
Donc, c'est compliqué.
Mais en fait, tu le vois avec Covid et j'en suis le parfait exemple où il y a un des parents qui a dû dropper sa carrière. Nécessairement, le mari gagnant mieux sa vie. bah, c'est la nana. Ouais. Et combien d'articles j'ai vus où les femmes, mères, surtout bah, les mamans d'enfants à bas âge, ont dû arrêter leur carrière pour s'occuper de leurs enfants, quoi.
C'est beaucoup de femmes qui, malheureusement, ont été battues pendant ces périodes parce que les hommes craquaient.
Oui, aussi.
Et d'ailleurs, pendant le Covid, j'ai organisé une collecte de vêtements pour les femmes qui ont dû fuir leur chez elles et qui se sont retrouvées dans un refuge sans rien. Les refuges étaient un peu débordés. Bon, il n'y en a pas tellement ici parce que ça n'arrive pas beaucoup, mais il y en a. Et je me souviens, avec un organisme dont je suis membre, j'ai décidé de lancer cette action. On avait récolté des vêtements et quelques jouets pour des enfants, parce que souvent, ils arrivent avec leurs enfants pour qu'elles aient des vêtements. Parce que beaucoup, beaucoup, beaucoup de couples ont explosé pendant cette période aussi.
Oui, mais quand tu vois, quand ils ont réouvert en Chine et le nombre de divorces, de couples qui ont filé pour divorcer, c'est impressionnant. Mais tu fais très bien de le dire aussi, les femmes qui se font battre par leur conjoint en plein...
Ah, mais il y en a plein qui pètent les plombs. Ils pètent les plombs et sur qui ils se vengent, qui est dans le même appartement qu'eux, ben, leur femme, ouais, ou les enfants.
Non, c'est affligeant et inquiétant. C'est affligeant et inquiétant. Et,
d'un autre côté, ouais, je comprends que certaines personnes sont faibles et craquent, mais de là à frapper... Je comprends qu'on tombe en dépression, qu'on ait besoin d'aide, mais pourquoi frapper ?
Non, c'est clair.
Mais bon, bref, c'est encore un autre sujet aussi.
C'est un autre débat, malheureusement.
Je t'avais dit que je parle beaucoup.
Mais tu n'avais pas des amis ou de la famille de Belgique qui pouvaient venir te voir et te soulager au moins, que ce soit une semaine de vacances ?
Non, parce que même en Belgique, je n'ai pas vraiment de la famille. J'estime que j'ai pas vraiment de famille. Et des amis, non. J'avais une personne qui était venue, mais au final, elle m'a fait plus de boulot qu'autre chose. Elle m'a pas du tout aidée.
Et puis, en général,
elle a dû partir en urgence 2 jours après la naissance de mon fils, donc ça n'a pas du tout aidé.
Ouais, bon.
Mais non, j'avais personne à qui demander de l'aide, venir m'aider, mais ici, ni de l'étranger. Et puis aussi, il faut que la travail, les personnes travaillent aussi. Elles peuvent pas prendre des congés comme ça. Donc, c'est compliqué.
Ouais, non, c'est
tout
clair.
Est compliqué.
Et alors, est-ce que tu aurais des conseils à offrir à des mamans qui, comme toi, sont des mamans célibataires à l'étranger ?
Ah, mais qu'il ne faut pas désespérer, il ne faut pas pleurer. Il faut prendre son courage à deux mains. Il faut oser demander de l'aide. Il faut chercher sur Facebook. On a cet outil Facebook maintenant qui est juste incroyable. Vous cherchez sur Facebook. Non, pas Market, oui, pour les choses qu'on veut avoir, mais il y a des groupes aussi dans votre quartier, dans votre ville, là où vous habitez, de tout, des groupes de mamans ou des groupes où on donne des choses. On cherche des institutions, peu importe le pays, il y en a partout, qui aident les gens qui ont besoin. Il ne faut pas avoir peur d'oser demander de l'aide. Il n'y a aucun mal et aucune honte à demander de l'aide pour redonner une meilleure vie à son enfant. Il n'y a aucune honte à avoir. Et ça, j'insiste, je sais que dans beaucoup de pays, c'est très tabou, mais ici, ça ne l'est pas du tout. Du coup, moi, je me suis formatée comme ça et je pousse les gens, mais quel que soit le pays, n'ayez pas honte. J'ai parlé encore hier à une amie en France qui a 5 enfants, qui est maman célibataire et qui rame. Elle n'ose pas trop demander parce qu'après, on va parler d'elle, comme quoi elle demande. Mais non, je dis... Il faut oser, il faut demander. Si on peut donner une meilleure vie à son enfant, il faut le faire. Donc on cherche sur Internet, sur Facebook, partout, tous les moyens qu'il y a pour avoir de l'aide. Il n'y a pas de mal puisqu'ils sont là pour ça. Ce sont des organismes qui servent à ça. Les gens qui donnent, ils donnent. Donc que ce soit à toi ou à la voisine, autant que ce soit à toi, puisque tu en as besoin. C'est pas comme si une personne qui n'a besoin de rien, qui a tout, va prendre pour prendre. Là, les personnes qui en ont besoin, eh ben, allez frapper aux portes et demander de l'aide. Et c'est pas tout seul. L'amour, ça fait pousser des ailes. Donc, l'amour de votre enfant, ça aide beaucoup et il faut surtout pas se battre. Il y a des jours où on a envie de pleurer, eh ben, on pleure, on attend que ça passe un jour ou deux, puis on se reprend en main et on retourne au front.
Je pense que ton petit garçon doit être quand même super fier de sa maman parce que ça doit vraiment
Je
pas
sais
être
pas.
Évident.
Mais j'espère que quand il sera grand, il sera fier, oui.
Et alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, toi, pour la suite ?
Ah, moi, me souhaiter de mieux gagner ma vie pour que je puisse enfin investir dans un petit appartement. Parce ouais. que ici, les prix, c'est la folie pour s'acheter un appartement. C'est encore plus cher qu'en Europe. Et de rester en bonne santé, moi et mon fils, très longtemps. Et d'être heureux. Ouais. Et voilà.
Non, bah écoute, Gaëlle, moi, en tout cas, je te remercie énormément pour ton témoignage et pour ton temps.
Avec grand plaisir.
Et puis, je vais surtout te laisser aller te coucher parce qu'on a quand même quelques heures de décalage.
Oh, j'ai l'habitude ici, il est 22h. Mais je ne vais jamais me coucher si tôt parce qu'une fois qu'il est couché, je fais le reste et même pas encore dîner.
Non, bah écoute, merci beaucoup.
Merci.
Voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous ou de nous laisser un commentaire et une évaluation sur votre plateforme préférée. Nous, on vous souhaite une excellente semaine et on vous retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. Ciao !